votre matinale info sur Europe 1.
Anthony Favalli.
Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous.
Politologue, et face à vous ce matin, Gabrielle Cluzel. Bonjour Gabrielle.
Bonjour Anthony.
Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Si nos auditeurs, nos téléspectateurs sont à l'heure des tartines de pain et des croissants ce matin, c'est peut-être l'heure de vous prévenir. Savourez-les bien car les prix à la boulangerie pourraient bientôt exploser. Alors n'en voulez pas vraiment à vos artisans boulangers. Ils font ce qu'ils peuvent avec la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Beaucoup vont être contraints soit d'augmenter les prix, soit tout simplement de fermer boutique. Ils réclament de pouvoir être couverts par le bouclier tarifaire sur l'électricité parce que les factures explosent. Le reportage, Vincent Burga et Mickaël Dos Santos.
Dans les prochaines semaines, cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de l'électricité.
Mardi dernier, l'annonce de mon courtier en énergie, c'était x5. Donc de 2000 euros par mois, je vais passer à 10 000 par mois.
Une hausse qui pourrait avoir de lourdes conséquences.
Dans 3 mois, on baisse le rideau, ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible. Ou alors il faudra licencier la moitié de l'effectif et faire recentrer.
À cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
Le beurre, il a pris là, en un an et demi, il a pris 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'approvisionner en Hollande ou aux Pays-Bas, parce que le beurre est moins cher que le beurre qui est fabriqué à 2 heures d'ici en Normandie.
Pour survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40% de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
Je pense que je prendrai moins de pain. Au lieu de prendre 2 baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai qu'une.
On va rogner sur autre chose, mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire, quoi.
Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
Une facture qui passe de 2000 à 10 000 euros, ça le pénalise lui, ce boulanger, et ça pénalise aussi tous les Français avec des risques de prix qui grimpent de 30 à 40%. Est-ce que les boulangeries doivent être couvertes par ce bouclier tarifaire ou alors est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore ?
De toute façon, ce bouclier tarifaire et toutes les mesures qui peuvent être prises pour encaisser ce qui est une inflation importée, ce qui n'est pas une inflation d'une certaine façon saine, est-ce qu'il y a une inflation saine ? Oui, je pense qu'il peut y avoir une inflation saine quand l'économie fonctionne à plein régime. Vous ne pouvez pas faire autrement pour produire plus que d'augmenter les prix, notamment du travail, et donc ça augmente aussi le pouvoir d'achat, ça tire l'économie vers la croissance, etc. C'est pas du tout ce mécanisme-là. Là, c'est vraiment une inflation, d'une certaine façon, artificielle. Alors, est-ce qu'il faut, parce que le pain est symbolique, parce qu'on sait que dans l'inconscient collectif, c'est lié à la Révolution, c'est la marche, vous voyez, je fais allusion à personne, mais la marche des femmes sur Versailles qui demandaient du pain, qui demandaient à récupérer le boulanger d'ailleurs, la boulangère et le petit mitron, c'est comme ça que c'était formulé à l'époque par les femmes de Paris qui avaient très faim, et vous savez que Jean-Luc Mélenchon a récupéré ce symbole récemment dans un tweet qui a fait beaucoup parler de lui. Donc l'idée c'est quoi ? C'est est-ce qu'il faut vraiment agir pour le pain ou pas ? Je pense que si on agit de toute façon, on va renforcer le mécanisme d'inflation. Mécaniquement.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, il faut se dire que le pain va peut-être nous coûter 1,50€ dans pas si longtemps que ça, sans parler de toutes les autres pâtisseries et viennoiseries.
En général, Anthony, il vaut mieux agir sur la cause que sur les effets dans tout problème, que ce soit en politique ou en médecine. Donc là, le problème, c'est que cette inflation, elle est importée de l'extérieur et qu'il est très difficile de sortir de cette crise tout de suite et maintenant. Mais ce qui a déclenché cette crise, il y avait effectivement l'épisode Covid déjà, qui, à la sortie du Covid, puisque toute l'économie s'était arrêtée, elle est repartie en même temps, ça a déclenché des phénomènes d'inflation, déjà. Et puis, bien sûr, c'est la crise en Ukraine qui déclenche ce phénomène, puisque là, vous avez 2 mécanismes directement liés à la crise en Ukraine. Je rappelle que énormément de blé sort de cette région, blé de la mer Noire, c'est déjà dans le Père Goriot. Donc, vous avez là un blocus sur la sortie de ces blés. Donc, et comme il y a des mécanismes de marchés internationaux très interconnectés et beaucoup de spéculation, ça élève le prix notamment du blé, mais on aurait pu parler du phosphate d'ailleurs. Et deuxièmement, vous avez les matières premières. Deuxièmement, vous avez l'énergie. Excusez-moi, c'est mentionné dans le reportage. Et l'énergie, ça, c'est lié au marché européen d'énergie. Donc, agir sur les causes, ce serait quoi? Ce serait, à mon avis, complètement lever les sanctions, en tout cas sur ces matières premières-là, sur le blé, etc., et arriver, ce qu'avait essayé de faire le président Macron, mais c'est Erdogan qui a réussi à faire sortir le blé d'Ukraine, mais pas suffisamment. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu mondial. Nous, ça va être le prix de la baguette qui va augmenter. Mais dans pas mal de pays, ils n'auront plus juste plus rien à manger. Ce sera la famine et ça va avoir des effets très graves. Et deuxième mécanisme, il faut sortir, comme l'a fait l'Espagne, l'Italie, de ce phénomène fou qui est, dont on a parlé ici sur ce plateau, le marché intégré de l'électricité. Et de sorte à ce que l'électricité revienne à son prix de revient normal et ne soit plus alignée avec un mécanisme totalement baroque sur notamment le prix du gaz. Parce que le prix du gaz, il est complètement lié à la crise en Ukraine.
C'est passionnant comment on part de la boulangerie et du petit déjeuner pour arriver à la situation géopolitique et l'impact que cette situation géopolitique a pour tous les Français aujourd'hui.
Je ne vais pas monopoliser le crachoir comme on dit, mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est dans ces deux crises, crise du Covid et crise en Ukraine, on voit que l'impératif de sécurité prime sur l'impératif économique. Et on voit que finalement, ce qu'on nous a vendu comme étant un marché très sophistiqué, mondial, où tout est interconnecté, où on pouvait se fournir à l'autre bout du monde, mais où aussi, grâce au mécanisme de marché à la nanoseconde, on allait régler tous les problèmes de pénurie, on se rend compte qu'il suffit d'une crise pour que tout ça soit totalement à plat.
Gabriel Cluzel, n'empêche que la demande immédiate des boulangers, c'est de bénéficier du bouclier tarifaire. Ma question était, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore en accordant le bouclier tarifaire à des artisans commerçants, sachant que si on leur accorde à eux, peut-être que d'autres encore, je pense aux bouchers, je pense aux restaurateurs, peuvent aussi réclamer cette couverture.
Oui, mais il est assez naturel.
Et que nos finances publiques ne sont pas...
Il est assez naturel qu'ils voient midi à leur porte et qu'ils demandent à être protégés à titre personnel. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait reprocher à nos gouvernants, c'est de ne pas s'occuper de leur devoir d'État, de ceux dont ils ont la charge. Un boulanger, il est chargé de... Il pense à pérenniser son métier, pérenniser sa profession, pérenniser sa production. Eh bien, le gouvernement français devrait penser à faire en sorte que la France tourne, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, c'est qu'il y a une vision démiurgique du gouvernement, c'est-à-dire qu'il veut s'occuper du monde, de l'Europe, faire la paix en Ukraine, etc. Mais il doit surtout s'occuper de procurer leur pain quotidien. C'est quand même une expression éminemment symbolique en France pour les Français. Alors, on va finir par se demander de quoi on ne manque pas dans ce pays. Hein. Le bois, l'électricité, le gaz, la moutarde, l'huile d'olive. Maintenant,
l'eau
on
cet
va
été.
Manquer...
L'eau
voilà,
cet été également,
cet été, maintenant. Non, le pain, tous ces biens essentiels, nous n'imaginions pas qu'un pays développé comme le nôtre pourrait un jour en moquer. Ce qui est terrible, c'est que moi je serais assez...
Mais là, il y a moins un phénomène de quantité que de prix. En
fait. Oui, mais néanmoins, que va-t-il se passer? C'est que les boulangers vont mettre, la clé sous la porte, voilà, et les Français vont sauter. On ne va pas manquer sur le plan... les Français peuvent acheter du pain, mais ce sera excessivement cher. De la même façon que, par exemple, pour les travaux, aujourd'hui, ils peuvent faire des travaux dans leur maison, mais c'est très cher parce que les matières premières sont extrêmement chères. Donc, c'est une forme d'autocensure, donc de pénurie de fait. C'est évidemment éminemment symbolique. Ce sont les grandes surfaces qui tireront leur épingle du jeu parce qu'elles ont les épaules plus larges, parce qu'elles peuvent faire de la synergie, parce qu'elles ont le moyen de tenir, et ce seront ces petits commerces est vraiment extrêmement symbolique pour la France qui risque de disparaître.
Alors qu'un débat sur l'immigration doit se tenir fin novembre au Parlement, faut-il remettre la question des quotas sur la table? C'est ce que fait Édouard Philippe ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, l'ancien Premier ministre, qui nous dit « Les quotas par profession me paraissent parfaitement envisageables. On a besoin de compétences, de faire venir des gens. Même avec un taux de chômage à 7%, on peine à recruter dans certains domaines. Un débat au Parlement pour dire « Cette année, on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs. Ce ne serait pas scandaleux ni médiocre. Cela me paraît même assez légitime. Guillaume Bigot, ce projet de loi, il doit être présenté sur l'immigration début 2023. Est-ce que c'est en effet une piste qui vous paraît légitime? Aujourd'hui, on en parle assez peu en France de cette question des quotas.
Ce que je trouve assez fascinant, c'est la capacité qu'a la classe dirigeante à renverser des évidences. C'est-à-dire que l'évidence aujourd'hui, que tout le monde constate, c'est que c'est l'immigré qui fait la politique migratoire. Et c'est que donc les frontières sont une passoire. Il y a des centaines de milliers de personnes qui passent tous les ans, qui n'ont rien à faire là et qui ne sont pas renvoyées chez eux. Et donc on nous explique qu'il n'y aura pas d'immigration zéro. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une immigration zéro, il y a une immigration infinie là. En fait, c'est ça la réalité. Donc quand vous contestez le fait qu'il y a une immigration infinie, on vous répond « Ah, mais attendez, il n'y aura pas d'immigration zéro ». Et donc on arrive au discours de M. Philippe, qui va défendre des gadgets ou des totems de la classe dirigeante, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une immigration, vous comprenez, c'est très important qu'il y ait une immigration, à la fois parce que…
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec le postulat de départ, c'est-à-dire qu'on a besoin Exactement. D'une immigration, c'est ça? Vous dites non, malgré les postes à pourvoir…
Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'on caricature le fait qu'on veuille rétablir des frontières. En fait, en visée absolument impossible à atteindre, c'est-à-dire d'immigration zéro. Personne n'a jamais expliqué que les frontières devaient être hermétiquement fermées. Quand vous avez une porte, une frontière, c'est une porte. Donc vous pouvez l'ouvrir ou la fermer en fonction de vos besoins. C'est une évidence que si vous avez besoin de cadres de très haut niveau coréens, américains, à la défense, vous allez les prendre. Si vous avez besoin d'informaticiens, et aujourd'hui, par exemple, des experts en sécurité informatique qui viennent, ils sont très bien formés au Maghreb, on peut les faire venir. C'est pas un problème. Ça s'appelle une immigration de travail. Vous donnez un permis de travail aux gens. Ils viennent répondre à des besoins de l'économie, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la formulation de M. Philippe part du principe que ce serait choquant. Mais ce qui est choquant, c'est pas ce que dit M. Philippe, c'est pas, parce que là, il part du principe que la population, si vous voulez, ivre de rage contre l'immigration, la bave aux lèvres, voudrait de l'immigration zéro. Et que lui, comme un haut fonctionnaire très calme, très sérieux, très pondéré, il répondrait à cette demande d'immigration zéro en disant « Oh, mais ça n'aurait rien de choquant de prendre quelques médecins ou de prendre quelques soudeurs. » En réalité, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que les frontières, je répète, sont ouvertes, c'est l'immigré qui fait la petite immigration, c'est ça qu'on doit changer, et c'est pas en autorisant des permis de travail qui ont toujours existé, qui existeront toujours, qu'on va régler ce problème. Donc il tape à côté de la cible.
Là, en termes de quotas, vous dites ça existe, parce que là, lui, ce qu'il propose, c'est de pouvoir débattre à l'Assemblée nationale chaque année et de dire, bah voilà, cette année, on a besoin
sérieux.
De...
Quand en France, on a besoin... dans tous les pays du monde, d'ailleurs, d'une main-d'œuvre très spécifique. Ou... Ça peut être, d'ailleurs, on a vu le problème des infirmières. Pendant très longtemps, avec le numerus clausus en médecine, on avait besoin de médecins. Ça choquait qui et ça posait un problème à qui qu'on fasse venir des gens bien formés. Parce que par définition... Alors, on y va.
Vous nous dites, de toute façon, on regarde à côté avec cette question.
Un, il y a des permis de travail, c'est-à-dire c'est pas une immigration de peuplement, c'est des gens qui peuvent éventuellement occuper un travail pendant un certain temps et repartir chez eux. Et deux, s'il y a des postes à occuper ici qui sont vacants ici, il n'y a de toute façon déjà pas de problème d'intégration économique. Et le problème qui se pose n'est même pas celui-là, c'est les populations mal assimilées qu'on a ici et le fait que des centaines de milliers de quasiment de va-nu-pieds arrivent tous les ans ici et même maintenant attaquent l'hôtel de ville.
Gabriel Cluzel, on a en Europe une dizaine de pays qui ont adopté des quotas en matière de migration économique, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Bulgarie et j'en passe. Pourquoi c'est un sujet tabou chez nous, comme le prétend en tout cas Édouard Philippe? C'est ce qu'il a l'air de dire.
Non, mais alors moi j'ai un point d'accord et un point de désaccord avec Guillaume Bigot. Le point d'accord, c'est que de fait, on nous prend un peu pour des idiots, c'est-à-dire que nous avons des grandes portes-fenêtres ouvertes à tout vent et on nous explique là la petite lucarne, là quand même on peut légèrement l'entrouvrir. Hein, voilà, bon, donc c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Mais sur l'immigration choisie et les quotas, là aussi je trouve que le débat est mal posé et a été prétexte en réalité à légitimer une immigration débridée depuis des années. D'abord parce qu'une fois que les immigrés sont là d'une façon ou d'une autre, je vous renvoie à l'excellent livre de l'ambassadeur l'ex-ambassadeur d'Algérie, Xavier Driancourt, qui explique que il y a 1000 moyens de rentrer en France, dont ce mois-là. Et après, on n'en repart pas, la famille vient. Enfin, c'est pas temporaire, voilà. Mais en plus, au-delà de ça, prenons l'exemple des médecins. C'est-à-dire que pendant des années, on a mis un numerus clausus incroyable. On a empêché les jeunes d'être médecins, des gens qui avaient une vocation formidable d'être médecins, et on est allé chercher à l'étranger des médecins. Donc pour le coup, on a absolument certainement pas vérifié le cursus. Hein. Personne ne sait, c'est pas le gouvernement français, par définition, qui sait comment ils sont formés. Et on a eu de fait une exigence beaucoup, bien moindre. Et on explique que ce sont ces médecins-là qui vont nous sauver parce qu'il n'y a pas de médecins français. Et alors, et puis,
non, on est d'accord.
Ce qui est caché derrière, c'est qu'en plus, on les paie pas très, on les paie mal. Sûr. Parce que derrière cette recherche d'immigration, vous voyez, derrière cette petite musique consistant à dire, par exemple, pour des métiers un peu difficiles comme la restauration, oh oui, les Français sont assez paresseux, il faut faire venir de l'immigration. Mais il y a surtout l'idée que ça permet de les rémunérer moins parce que les standards de vie à l'étranger n'étant pas les mêmes qu'en France, eh bien, les immigrés s'en contentent. Et je pense qu'il y a une grande hypocrisie à développer ce discours et je pense qu'il est important de la lever, cette hypocrisie.
Nous sommes totalement en phase, totalement en phase. Je pense que des permis de travail accordés à des cadres très spécialisés ou à des métiers très spécialisés dont on peut avoir ponctuellement besoin, ce sont des permis de travail qui doivent être révocables d'une part, et donc toute la politique d'immigration est à reprendre, est à réinstaller, notamment le regroupement familial et autres. Mais par ailleurs, ça ne fait que confirmer le fait que notre outil de formation, de temps en temps, est inadapté et que les emplois ici peuvent exister en très grande quantité, non pourvus. Alors effectivement, la question se pose de savoir pourquoi ils sont non pourvus. Ils sont non pourvus peut-être parce qu'il y a des aides sociales qui découragent l'activité. Ils peuvent être non pourvus parce que les formations ne sont pas adéquates. Et ainsi de suite. Donc, bien sûr que ça, cette immigration ne serait, c'est qu'une cautère sur une jambe de bois, c'est qu'une solution temporaire. Ensuite, vous avez, et c'est très intéressant aussi, cette histoire d'immigration choisie, ça avait été lancé par le président Sarkozy. C'est-à-dire qu'en fait, on avait à l'époque, cette expression de Sarkozy à l'américain. Mais c'est vrai qu'il y a, chez nos classes dirigeantes, l'idée de penser la France comme les États-Unis. C'est-à-dire comme un pays qui se serait constitué par l'immigration. Et pendant très longtemps, ce discours nous a été servi. Et c'est à la fois vrai et faux. Au XXe siècle, les États-Unis et la France, en proportion, ont reçu autant d'immigrés. C'est vrai. Seulement, la France est un pays constitué par des Apaches et par des Sioux. C'est-à-dire qu'il y a des indigènes qui sont là depuis plus de 1000 ans, qui font le fond démographique du pays. Tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, les Sioux et les Apaches ont été éliminés. C'est un pays qui s'est rempli, qui était quasiment vide, et qui s'est rempli de l'extérieur. Et donc, pour eux, l'immigration est naturelle. Elle n'est pas naturelle pour nous. De plus, aux États-Unis, comme chez nous, on peut s'ouvrir ou se fermer en fonction des besoins d'économie. Quand vous avez une économie qui tourne à plein régime, quand vous avez une démographie forte, parce que je rappelle qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants français pour qu'il y ait de l'assimilation, alors ça peut être éventuellement une solution pour être encore plus puissant de faire venir des immigrés, mais c'est pas du tout, les circonstances actuellement.
Guillaume Bigot, politologue, et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va continuer à parler des questions migratoires. Avec cette EHPAD transformée en centre d'accueil pour migrants à Saint-Lys, près de Toulouse, dans cette ville de 10 000 habitants, le projet sème la discorde, encore une fois, parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les habitants et que la mairie elle-même, mairie de gauche, a été placée devant le fait accompli. Mais voilà, c'est l'État qui impose et le centre accueillera donc bientôt 120 personnes. Le reportage signé Jean-Luc Thomas.
Cette EHPAD sera en 2023 un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour vers leur pays d'origine. Annoncée par l'État en 2021, cette création entraîne des controverses.
C'est sûr qu'on n'a pas été concerté, ça c'est sûr et certain. Nous, moi je l'ai appris du jour au lendemain dans les journaux.
Comment une maison de retraite s'en va et pof, on vous balance un truc dessus.
On comprend qu'il faut quand même tendre la main, les aider, mais ça fait un petit peu peur.
On doit les accueillir ces gens-là. Il faut bien qu'ils se mettent quelque part à l'abri. Hein.
Beaucoup de questions restent en suspens pour les habitants. Il y aurait dû avoir une concertation dès le début.
On connaît les inquiétudes que ça va générer chez nos populations. On n'a pas les réponses à apporter puisque ce n'est pas de notre compétence. D'où cette réunion publique très importante le 17 où on va venir, où la préfecture avec le groupe Adoma et l'OFI vont venir apporter des réponses en direct aux Saint-Lysiens et Saint-Lysiennes sur quelque chose qui est de leur compétence.
Un point d'achoppement existe entre l'État et la commune sur le nombre de personnes accueillies.
Nous étions initialement sur 160 places sur ce projet, que donc Adoma a décidé de descendre à 30 familles à peu près au lieu de 40, ce qui correspond à 120 places.
En France, 5000 étrangers en situation irrégulière ont bénéficié en 2021 d'un retour volontaire.
Alors la méthode de l'État est-elle choquante? Je vais vous faire réagir dans un instant, Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel, mais tout d'abord le rappel de l'actualité, et c'est avec Elisa Lukavski.
Europe 1.
20,7% des stations-service connaissent des difficultés de distribution sur au moins un produit. Pour un pourcentage annoncé hier par le ministère de la Transition énergétique, ce chiffre était de 19% vendredi. Les grèves continuent chez Total Energy et ExxonMobil. Les automobilistes galèrent et les files d'attente aux rares stations-service ouvertes donnent lieu à beaucoup de tensions. Bon courage si vous devez faire le plein. La Corée du Nord a tiré de nouveaux missiles balistiques vers la mer cette nuit, annonce de l'armée sud-coréenne. Il s'agit des 7e et 8e tirs de ce genre en 2 semaines et ils surviennent sur fond de tensions croissantes avec les États-Unis qui ont intensifié sur la même période leurs exercices militaires conjoints avec Séoul et Tokyo. La Corée du Nord a justifié sa série de tests de missiles par les menaces militaires, je cite, « américaines ». Et puis le deuxième match nul d'affilée du PSG face à Reims hier. Après le 1 partout face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions mercredi, eh bien les Parisiens réduits à 10 après l'expulsion de Sergio Ramos au Calais hier, 0-0. Pas le plein de confiance hein, à 3 jours de recevoir les Portugais de Benfica en Ligue des Champions. Malgré tout, le PSG reste en tête du championnat avec 3 longueurs d'avance sur l'OM qui a aussi fait match nul hier. Les deux équipes se retrouveront dimanche prochain pour le fameux classique.
Alors avec Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot, nous parlons de cette EHPAD transformée en centre d'accueil pour migrants à Saint-Lys, près de Toulouse, sans concertation ni avec les habitants, ni avec la mairie. C'est l'État qui a imposé cette décision. Plusieurs réactions qu'on entend, Guillaume Bigot, dans ce reportage. On ferme un EHPAD pour ouvrir un centre d'accueil pour migrants. Certains disent avoir peur.
C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de symboliquement très fort. L'EHPAD dans un village, dans un petit village, symbolise le vieillissement des populations dans des milieux ruraux. Et qu'est-ce que fait l'État ? Il transforme le symbole du vieillissement en symbole, alors non pas du repeuplement, parce qu'on n'est pas dans la thématique de Calac.
On rappelle dire, que voilà. La situation est un petit peu différente de ce qu'on a pu voir par ailleurs.
Ce sont des gens
de migrants volontaires au retour dans leur pays.
Volontaires au retour dans leur pays.
Qui sont en transit, de fait.
Sont en transit et qui vont normalement retourner dès lors que les fameux laissez-passer consulaires et autres leur auront été
délivrés. Mais sur la méthode de l'État, encore une fois, elle est pareille partout et tous les cas de figure.
Il y a déjà ce premier point, c'est quand même symboliquement. Alors même qu'ils sont en transit et uniquement en transit, alors même qu'ils ne sont qu'une centaine, ça suscite déjà cette réaction. Ça montre à quel point le projet du président de la République de vouloir répartir l'immigration
dans les milieux ruraux,
pour repeupler, parce que dit-il, il y a des problèmes démographiques et il y a des villages vieillissants. Même lorsqu'on met des gens en situation de transit, c'est la levée de boucliers. Donc imaginez l'idée d'installer complètement des gens définitivement. Ce serait complètement fou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que depuis la crise des Gilets jaunes, grosso modo, le président de la République s'était complètement assis sur les corps intermédiaires et notamment sur les élus locaux qui les avaient totalement snobés les uns et les autres, s'est retourné vers eux pour qu'ils, d'une certaine façon, pour demander de l'aide. Et l'aide a été apportée, d'ailleurs, cette séquence du fameux grand débat avec les maires qui avaient vraiment joué le jeu pour tenir à bout de bras l'exécutif. Or là, l'exécutif est réélu avec un slogan, avec une ligne, la concertation, les collectivités locales, on va dialoguer avec tout le monde, on va débattre avec tout le monde, vous comprenez, c'est l'équipe de France, l'exécutif et les maires. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la politique tombe d'en haut, de manière particulièrement centralisée, particulièrement jacobine, sans aucune espèce de concertation. C'est à la fois la thématique des collectivités locales, mais c'est la thématique de la méthode de la concertation. Évidemment, il tombe complètement dans ce qu'il dénonce. C'est incroyable. Et enfin, pour terminer, il y avait cette expression que François Mitterrand avait utilisée, qui avait coulé beaucoup d'encre à l'époque, de seuil de tolérance. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a un maire PS. Alors, quand on connaît un peu le Parti Socialiste, et quand on sait à quel point ils ont une politique de dame patronesse à l'égard de l'immigration, qui est un de leurs grands tabous, un de leurs grands totems, attention, oui, il ne faut pas critiquer, c'est du racisme, etc. Et qu'on voit que le maire PS prend la tête de cette fronde locale, on se dit qu'évidemment, l'immigration, c'est bien, mais loin de chez soi. C'est bien chez les autres.
Gabriel Cluzel.
Écoutez, c'est très simple et cela ne va probablement pas s'arrêter à Saint-Lys. De fait, ce qui est intéressant, c'est que face à la réalité, eh bien, même un maire socialiste est obligé de dire que ça ne va pas être possible parce que il est confronté à la vraie vie et loin de l'idéologie.
Et vous craignez que la méthode soit la même à l'avenir dans tous les cas de figure d'accueil de migrants
Alors, c'est des migrants qui veulent repartir Alors on va voir déjà s'ils repartent, parce que vous savez que il y a beaucoup de vœux pieux dans ce domaine, hein, entre les OQTF, les ceux qui veulent repartir mais qui n'ont pas de laissez-passer consulaire. Moi, je donne rendez-vous dans quelques mois pour voir où tout cela en est.
Combien
pardon de douter, hein, je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Et puis donc Saint-Lys, c'est la ruralité pas très loin de Toulouse. Et que se passe-t-il ? C'est que les grandes métropoles souffrent des maux de l'immigration. Alors on se dit, on va les disperser, saupoudrer, en espérant que ainsi on fasse retomber la pression dans les grandes métropoles. Mais comme c'est pas un nombre fini, c'est un flot continu. L'immigration est un flot continu. Guillaume Bigot l'a rappelé tout à l'heure. Les frontières sont largement ouvertes. Il y a zéro contrôle, hein. Même ceux qui les aident à passer, comme Cédric et Roux sont invités au Festival de Cannes, et donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête, donc c'est un flot continu. Donc ça veut dire que ces villes, évidemment, vont être, ces petites villes, ces villages vont être soumis à une forte tension qu'ils n'ont pas connue jusque-là. On a vu cette tension dans les villes moyennes, il y a des villes comme Vierzon, Alençon, qui aujourd'hui souffrent des maux liés de l'immigration, et ça va être maintenant la ruralité, sauf que pour eux ça va être triple peine, c'est-à-dire que ils n'ont pas de moyens ferroviaires, ils n'ont pas de travail, et maintenant ils vont avoir reçu une immigration qu'ils ne vont pas pouvoir employer. Ils n'ont pas de travail pour leurs enfants sont partis parce qu'il n'y avait pas de travail, mais pourquoi retrouverait-on, pourquoi ces migrants, eux, trouveraient-ils du travail? Alors j'entends ici et là des visions iréniques de Jean de Florette, version exotique, où on se dit qu'on va leur donner un petit lopin de terre et que ça va bien se passer, et en imaginant que toutes les populations sont interchangeables. Et là aussi, c'est un grand mépris, tant pour les uns que pour les autres, pour toutes les cultures, si j'ose dire, pour toutes les civilisations. Parce que c'est imaginer qu'on a juste un homo economicus qui va se fondre partout où il va. Non, c'est faux. C'est complètement faux, et ça va être profondément perturbant pour ces populations. Moi, ce que je remarque, c'est que nous, Boulevard Voltaire, nous avons fait un reportage à Saint-Lys, et les gens sont très mécontents, mais sauf exception, ils ont beaucoup de mal à l'exprimer. Ils commencent toujours par dire « Non mais nous, vous savez, on n'est pas racistes, on n'est pas comme ça, on n'est pas égoïstes. » Et il y a une forme d'auto-censure qui me semble
être un frein. Parce que le raccourci est rapidement et voilà.
Exactement, qui me semble être vraiment un frein à la libre expression.
Guillaume Bigot.
Oui, ce qui est peut-être l'occasion de dire un mot du coût, en fait, de faire repartir les gens. C'est-à-dire qu'on est dans une situation totalement absurde, où au lieu, ça mériterait qu'on s'y arrête aussi, pourquoi on ne veut pas ou pourquoi on ne peut pas stopper l'arrivée, et en fait, on dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à les faire repartir. Mais attention, il faut que les gens, les auditeurs et les spectateurs soient conscients du fait que ce n'est pas sans coût. D'abord, on aménage effectivement des EHPAD aux frais du contribuable, mais on paye les billets d'avion, mais on donne de l'argent aussi à ceux qui sont volontaires. Et attention, s'ils fabriquent un petit dossier pour dire qu'ils ont un projet, par exemple, d'entrepreneuriat chez eux, on va aller jusqu'à leur donner plusieurs dizaines de milliers d'euros aux frais du contribuable, sans parler des négociations qui débouchent, comme on l'a vu avec M. Macron à Alger, sur plus de visas encore. Donc on est dans la politique du bureau, si vous voulez. On dépense toujours plus d'énergie, toujours plus d'argent pour moins de résultats, essayer de faire sortir des gens qu'on ne veut pas, absolument pas, cesser de faire rentrer. Pourquoi ? Parce qu'on veut construire l'Europe, parce qu'on ne veut pas remettre en question Schengen, parce que c'est vraiment un tabou et un totem de la classe dirigeante.
Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel, je voulais vous présenter ce matin, ainsi qu'à nos auditeurs et téléspectateurs, notre reportage au CHU de Bordeaux, symbole de la violence quotidienne que subissent les soignants, symbole plus largement peut-être d'un ensauvagement de notre société, ça vous allez me le dire. Sur place, on a 2 à 3 agressions verbales ou physiques chaque jour, avec des patients qui ne veulent plus attendre pour être soignés, des soins qui sont parfois très mal perçus. La situation peut même s'envenimer dès l'accueil des patients. Le reportage est signé Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
Aux urgences pédiatriques, les agressions sont le plus souvent verbales. Des parents estiment attendre trop longtemps et les conversations s'enveniment. Parfois, des menaces sont proférées pendant les soins.
Il y a eu une professionnelle comme ça qui s'est retrouvée à devoir faire une prise de sang à un enfant. Et le papa a dit à l'enfant, t'inquiète pas, si elle te fait mal, je lui fais mal. Et là, la professionnelle s'est retrouvée un peu en difficulté à dire oui, alors faut pas que je fasse mal à l'enfant, mais en même temps, je vais faire une piqûre, donc c'est pas agréable, et à stresser elle-même.
Ici, tous les soignants affirment avoir connu une agression. Les affiches contre les violences viennent d'être posées dans la salle d'attente.
il faut qu'ils les voient, il faut qu'ils les regardent, il faut qu'ils les comprennent. Je pense de voir des soignants en premier plan qui devant sur une campagne anti-agression, je pense que c'est une bonne idée.
C'est de dire, bah attendez, là, on est là pour soigner et donc tranquille.
Les infirmières estiment que les soins sont beaucoup plus faciles quand les familles sont moins angoissées et surtout quand les discussions se déroulent dans le calme.
Le médecin, c'est un métier pas très simple. Je vais attendre parce que je viens ici, je sais, c'est en urgence et tout le monde a besoin de ça.
Je sais que quand on vient aux urgences, on prend son mal en patience.
Au CHU de Bordeaux, 15 000 soignants sont concernés par cette campagne d'affichage. L'an dernier, ils ont signalé plus de 800 actes de violence, de l'insulte à l'agression physique, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
Alors Guillaume Bigot, ça vous a fait réagir ce reportage, un père qui dit à son enfant devant la soignante, si elle te fait mal, je lui fais mal. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça?
D'abord, s'il est vrai, qu'on peut commencer par là, s'il est vrai qu'il y a un mécanisme de bouchon qui saute, on avait déjà parlé avec les chiffres étonnants de l'association aérienne internationale, avec les passagers violents, toutes nationalités confondues, partout sur Terre. Donc oui, probablement un cocktail de réseaux sociaux, de montée de l'individualisme, etc., font que les individus, tous les individus, supportent de moins en moins la frustration. C'est vrai, toutes choses égales par ailleurs. Il faut tout de suite ajouter que, évidemment, c'est pas n'importe quelle violence, qu'il y a une espèce de phénomène d'autocensure, que si on interroge le personnel soignant, on va constater que cette violence, elle ne vient pas de n'importe où, elle a partie liée avec l'immigration et elle a partie liée avec le trafic de stupéfiants. Pas toute l'immigration, puisque dans ce personnel soignant, ça a été rappelé par Gabriel Cluzel tout à l'heure, il y a aussi des gens qui viennent des pays africains, qui sont des médecins, des gens qui viennent du Maghreb, qui sont des médecins, qui sont des infirmières, etc., qui sont des gens remarquables et qui subissent cette violence. Donc c'est pas l'immigration en général, c'est le fait que c'est enquisté notamment dans les banlieues des grandes villes comme Bordeaux, mais maintenant ça vient partout, une contre-culture qui est liée à l'économie parallèle du trafic de stupéfiants, ultra-violente, la culture des gangs, plus du ressentiment anticolonial, plus du ressentiment anti-français, plus du ressentiment anti-couffard, etc., etc. Tout ça fait un cocktail assez explosif, et cette espèce de culture de tout m'est dû en France, de francophobie, de détestation de tout ce qui peut représenter la France, tout ce qui porte un uniforme, même des blouses blanches, ça existe. Alors on peut le nier, mais ça existe. Donc vous avez vraiment ces deux mécanismes. En fait, le troisième mécanisme, c'est le fait que les urgences sont débordées. Et elles sont débordées parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il y a des déserts médicaux, parce qu'on utilise les urgences pour un oui, pour un non, mais elles sont utilisées aussi particulièrement les urgences par des gens qui considèrent que tout leur est dû, et qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas la culture, et qui viennent aux urgences en terrain conquis. Et ça, je pense qu'il faut... Pourquoi on ne peut pas le formuler comme ça? Pourquoi le problème n'est pas posé jusqu'à son terme? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une culpabilité. Et il est très important de sortir de cette culpabilité en renversant la perspective. La vérité, on ne dit pas ça parce qu'on a peur d'être raciste. Mais il faut maintenant dire les choses. Il y a des gens racistes, xénophobes, qui sont chez nous et qui se comportent de manière xénophobe, qui ne nous aiment pas, qui nous détestent et qui nous attaquent en permanence. Ça se voit, y compris dans les urgences.
Et on en vient à poser des affiches pour appeler au respect des personnels soignants. Et alors, dans ce reportage...
Surréaliste, les affiches.
Exactement, et c'est ce que je voulais vous dire, et je vais les lire pour nos auditeurs d'Europe 1. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, cette affiche « Bienvenue en zone zéro agression ». Mais qu'est-ce que dit cette affiche « Bienvenue en zone zéro agression » comme s'il y avait des zones, par ailleurs, où l'agression était permise.
On est dans une société de...
Il y a une inversion totale des valeurs.
On est dans une société... Mais c'est lié au fait que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'inversion sur le racisme ou sur la xénophobie. On en est victime, on s'en accuse nous-mêmes. Là, en fait, on fait comme si la norme, c'était l'agression. On accepte le fait que la norme, c'est l'agression. Souvenez-vous de Blanche Gardin qui avait ironisé au lendemain des attentats du Bataclan, de la tragédie du Bataclan. Elle avait dit, oh, bah, la mairie de Paris, c'est sûr, la société française va se défendre, la civilisation française va se défendre, puisqu'on voit fleurir sur des affiches, des slogans, vous n'aurez pas ma haine, ou Paris est une fête. Elle disait, bah oui, bon, ici, là-bas, c'est le djihad, mais ici, c'est la fête. Donc, allez faire le djihad ailleurs, ici, c'est la fête. Non. D'une certaine façon, on accepte tout et n'importe quoi, et d'une certaine façon, l'agressivité des uns se nourrit de la mièvrerie et de l'infantilisation des autres.
Gabriel Cluzel, quand on voit tout ça, on se dit qu'on a quand même une société malade.
Oui, mais ça je me souviens que à Digne-les-Bains, les personnels soignants faisaient des stages de Krav Maga pour se défendre. Enfin, c'est complètement délirant. Alors déjà, on trouve pas beaucoup de soignants, pas beaucoup de médecins, on les rémunère mal, ils sont au beurre du burn-out et en plus ils se font fracasser. Donc ça donne vraiment envie de faire ce métier. C'est un peu comme les professeurs.
Pour faire des économies d'échelle, il faudrait former les profs aussi.
Voilà, exactement. Donc de fait, nous sommes dans un phénomène de décivilisation. Moi, je pense qu'il y a la jonction d'une société post-68arde qui a du mal avec la frustration, ça c'est évident, et même pour des Français qui ont été élevés en France depuis tout petit, mais il y a évidemment ce choc avec une population allochtone qui n'a pas... Qui n'a pas les mêmes codes, vous l'avez dit, et puis qu'il y a ce sentiment, et là encore, je renvoie à ce livre, parce que je viens de le lire, de Xavier Driancourt, qui est vraiment très éclairant, qui vient en France avec cette idée que il y a tout est dû parce que la petite musique anticoloniale leur a dit que la France les avait exploités. Donc
ils ont un titre de créance.
Donc voilà. Tous les services publics sont finalement un guichet ouvert permanent, et si ça ne va pas assez vite, en plus, eh bien, ils ont le droit de se plaindre. Et ça, là aussi, il y a la notion de censure qui est extrêmement importante. Vous avez raison, comment faire un audit et un diagnostic sur ces situations si on n'est pas capable de dire les choses? Ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent agresser. Il faut être capable de dire qui agresse, et c'est un peu comme à Saint-Denis tout à l'heure, il y a un tel phénomène de
culpabilité.
De culpabilité. On a tellement moralisé ces sujets que finalement, il est devenu impossible d'en parler. Donc, comment voulez-vous qu'on arrive à résoudre un problème si on n'a pas réussi à poser les bases du diagnostic ?
Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot, on va continuer à parler cette fois d'un parti qui a fêté cette semaine ses 50 ans d'existence, le Rassemblement National, anciennement Front National. Il était avant le parti classé Z, il est devenu celui des catégories populaires de la France dite périphérique. D'ailleurs, il figure en tête des partis préférés des Français, 37% d'opinion favorable, ex-aequo avec Europe, Écologie, Les Verts, selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Le Rassemblement National, qui est bien plus populaire qu'il y a 5 ans, comme nous l'expliquait Elodie Huchard du service politique de CNews.
Pour le Rassemblement National, c'est une tendance à la hausse. Il gagne 12 points par rapport à 2017. Alors comment on peut l'expliquer? Eh bien d'abord par le bon score de Marine Le Pen qui s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Le bon score aussi aux élections législatives. Marine Le Pen désormais est un vrai groupe à l'Assemblée Nationale. Un groupe qui peut normaliser le parti, qui lui donne accès à un certain nombre de postes à responsabilité au sein de l'Assemblée Nationale. C'est aussi un parti qui est clairement identifié par les Français, qui peut crisper aussi, on va le voir dans un instant, mais donc qui forcément fait parler de lui. Et puis c'est surtout un parti qui fait réagir. La contrepartie, c'est que 42% des Français ont une très mauvaise opinion de ce parti. On voit donc bien l'enjeu pour Marine Le Pen. Il va falloir qu'elle tente de normaliser jusqu'au bout son parti. Pour l'instant, en tant que présidente de groupe, elle tient son rang, quitte parfois à brimer certains députés qui aimeraient bien pouvoir avoir un peu plus accès aux médias ou bien à la parole. Marine Le Pen qui veut convaincre qu'elle peut gouverner d'ici 5 ans. Et puis, il va y avoir surtout quelques échéances pour le Rassemblement National. D'abord, Marine Le Pen, on le sait, n'est plus présidente du Rassemblement National. Quelqu'un va lui succéder d'ici quelques semaines, Jordan Bardella ou Lou Alliot. Marine Le Pen qui avait dit qu'elle ne savait pas encore si elle serait candidate en 2027. Et pourtant, on voit bien dans son attitude qu'a priori, elle se prépare déjà.
Alors Guillaume Bigot, on est passé depuis sa création d'un groupuscule un peu marginal à un parti de 89 députés, d'un parti qui séduisait des classes aisées à celui des classes populaires de la France périphérique. Qu'est-ce qui a permis cela? Est-ce que c'est le déclin de la gauche, par exemple? Entre autres facteurs.
Oui, mais j'aurais tendance à vous dire que c'est dès le démarrage. C'est-à-dire qu'on voit bien que les courbes se croisent avec le Parti communiste et le Front National du père, pour le coup, de Marine Le Pen, et que le père a fabriqué un parti, disons, tribunicien, un parti gueuloir, un parti contestataire pour ce qui était la classe ouvrière dans les années 80. Il n'en reste plus grand-chose, mais enfin, grosso modo, pour les classes les plus populaires... C'était l'électorat du Parti communiste et Jean-Marie Le Pen a fait une sorte d'OPA là-dessus. Et effectivement, le Parti communiste s'est d'une certaine façon aussi effondré par lui-même, sans parler de ce qui est arrivé historiquement par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait Marine Le Pen? Évidemment, elle a eu cet effort de dédiabolisation extrêmement efficace couper les ponts, les origines avec un parti qui avait, bon, qui était un cocktail en fait. Hein, le Front National, c'était quoi? C'était peut-être un quart de Poujade, un quart d'Algérie française, un quart de résistance aussi. On oublie, mais il y a une dimension de la résistance puisqu'il y avait des gens d'extrême droite et d'extrême gauche autour du général de Gaulle. Et il y avait un quart peut-être aussi de pétainistes et de nostalgiques de l'État français. Bon, donc tout ça n'était pas très jojo nécessairement. Elle a éliminé ce fond de sauce en quelque sorte et elle a pu progresser. Elle a progressé en récupérant. Vous dites l'effondrement de la gauche. Oui, elle a récupéré une partie de l'électorat du Parti Socialiste. C'est très net. Les professeurs, par exemple, des fonctionnaires qui sont majoritairement maintenant très attachés à ce vote-là. Et elle a récupéré aussi une partie, je dirais, la dimension la plus populaire du RPR, de ce qu'était le RPR avant que ça devienne l'UMP et LR. Maintenant, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Deux choses. Un, le mauvais objet, c'est-à-dire le diable. Ce n'est plus elle. Là, c'est très lisible dans ce petit sondage. On voit bien que le diable, c'est Éric Zemmour qui prend la foudre pour elle, d'une certaine façon. Deuxième, donc, sur le plan, je dirais, de la morale, entre guillemets, de la moraline plutôt, ça a fonctionné. L'opération a fonctionné jusqu'au bout. Elle ne sent plus le soufre, si vous voulez. En revanche, on constate qu'il y a une barrière sociologique.
Et on vient de le voir dans ce sondage. On a quand même 42% de Français qui restent à convaincre qu'ont une très mauvaise opinion de son parti.
Oui, mais ça pourrait être suffisant si tous les Français votaient également pour accéder au pouvoir. Or, ce n'est pas le cas. Les 42% qui la trouvent pas intéressante ou pas à leur niveau, etc. Je pense qu'ils font ce diagnostic à tort ou à raison. C'est pas à moi de juger qu'elle n'est pas à la hauteur, que c'est pas assez sophistiqué, que c'est pas assez complexe.
Et vont davantage voter contre elle que ceux qui sont...
Bien sûr. Voilà. Et donc, ces 42% sont très diplômés. Ces 42% votent énormément. Ce sont les soutiens du système. Ils partagent tous les totems, tous les tabous et toutes les folies de la classe dirigeante. Et eux sont d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas arrêter l'immigration. Ils sont d'accord. Mais tous les items, si vous voulez, vive l'Europe, vive le masque, vive la quatrième, la 74e dose, etc. Tout ça, ils le répètent en boucle. Et ils répètent, si vous voulez, le sermon du bon petit énarque tous les matins. Voilà. Et ils considèrent que le Rassemblement National n'est pas à niveau, si vous voulez. Donc, il y a une espèce de blocage sociologique assez important. Or, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, ces gens-là, ils survotent. Tandis que ceux qui sont d'accord avec Marine Le Pen, eh bien, ils votent très peu.
C'est ce plafond de verre, Gabriel Cluzel, qu'elle va devoir tenter de briser, Marine Le Pen, d'ici 5 ans.
Oui, vous avez raison, c'est un enjeu pour elle. Alors, son électorat ne vote pas, néanmoins, les résultats aux dernières législatives... vote moins, mais les derniers résultats aux législatives ont soulevé un peu d'espoir dans cet électorat qui s'est dit, finalement, même si le mode de scrutin n'était pas favorable... En votant, ça a permis de faire un groupe consistant. Je crois qu'on charge beaucoup Jean-Marie Le Pen en disant que finalement, sa fille, en l'écartant, a pu dédiaboliser le parti. Vous avez raison. Mais d'un autre côté, Jean-Marie Le Pen, c'est la figure par excellence du lanceur d'alerte, entre guillemets, sur l'immigration. Or, l'immigration, la marque Le Pen, c'est quand même l'immigration. L'immigration est devenue un sujet prégnant et ce présupposé lui permet de faire campagne sur d'autres points, comme le pouvoir d'achat, avec toujours la marque immigration, ce que n'a pas pu faire Éric Zemmour, qui finalement a porté que le sujet immigration et
surjouer l'immigration parce qu'il passe.
En laissant de côté les autres thématiques, ce qui lui a sans doute joué des tours. Et pour revenir sur le profil sociologique, là, pour le coup, Éric Zemmour peut l'aider, oui. Parce que lui a un électorat très diplômé, CSP+, et il a pu, on l'a vu d'ailleurs au moment des présidentielles, servir de sas, parce qu'une fois que ces gens-là ont voté Éric Zemmour, c'est un peu compliqué de revenir vers Macron, et ils vont plutôt vers Marine Le Pen.
Vous m'offrez une excellente transition, puisqu'on va retrouver tout de suite ma collègue Sonia Mabrouk, depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, dans quelques instants, à 10h, juste après la matinale, ce sera l'heure du grand rendez-vous CNews Europe 1, qui est donc votre invité. On a eu une petite intuition déjà.
Exactement. Bonjour à vous, bonjour à tous. Anthony, notre invité, vous venez d'en parler, c'est Éric Zemmour, le président de Reconquête.
Et sur quel thème, justement, allez-vous interroger Éric Zemmour ce matin?
Vous en parlez également depuis tôt ce matin. Il y a un moment d'accélération en ce moment, d'abord sur le plan international, bien sûr, avec le risque d'escalade plus important que jamais avec la Russie. Et puis aussi un moment d'accélération sur le plan intérieur, sur la question énergétique, mais aussi scolaire, immigration et sécurité, sur tous ces sujets. Éric Zemmour sera notre invité. Rendez-vous à 10h en direct sur Europe 1 et CNews.
Eh bien Sonia Mabrouk, on aura plaisir à vous retrouver juste après la matinale à 10h avec les téléspectateurs de CNews, les auditeurs d'Europe 1. Merci infiniment et à tout à l'heure Sonia. Merci infiniment également à mes invités Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. Bon week-end à vous, bon dimanche. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Tout d'abord chez nous sur CNews, la matinale week-end continue. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur nos deux antennes.